RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Pour la dernière heure de l'Intégral Tour de France, à l'occasion de cette 18e étape qui conduit le peloton de tri sur Baïse, d'où nous sommes partis tout à l'heure, juste avant 14h et en direction de Pau. Il reste encore 40 km à parcourir. Un petit top course avec Fred pour se mettre en bouche avant les 40 derniers kilomètres de cette étape. Le top course.
Avec l'arrivée de cette 18e étape sur les routes de Pyrénées-Atlantiques, 40 km à parcourir pour les 5 hommes de tête échappés depuis le premier kilomètre de cette dernière étape en ligne avant celle des Champs-Élysées, puisqu'on le rappelle, demain c'est retour vers les cols pyrénéens. Samedi ce sera le contre-la-montre au Pays Basque. 40 km à parcourir pour Thomas Bouda, le français, accompagné dans cette échappée du belge Van Kersbuck, des deux Australiens de l'équipe Mitchelton, Scott Heyman et Durbridge. Attention, deux équipiers dans l'échappée, ça pourrait avoir une incidence dans le final. Et puis, dernier membre de cette échappée, le néerlandais Nicky Terpstra chez Quickstep. L'avance de ces cinq hommes de tête est stabilisée à une minute, un peu moins maintenant, 45 secondes d'avance pour ces hommes-là qui sont peut-être en train d'en terminer avec leur fuite en avant. Le peloton veut absolument faire triompher les sprinteurs ici à Pau tout à l'heure.
La moto RMC Pierre-Yves Leroux qui n'est plus derrière l'échappée, Pierre-Yves, que l'écart est descendu sous la minute.
Ben non, en fait, comme on était parti voir un peu ce qui se passait au peloton dans le petit village de Vignes pour voir justement le travail des Groupama et FDJ, nous sommes encore entre les deux 50 secondes. Les régulateurs et les commissaires ne nous ont pas fait signe de repasser devant pour le moment, mais ça nous a permis de confirmer l'impression visuel par ce qu'il y avait au niveau du temps, c'est-à-dire que effectivement il y a un gros boulot des partenaires de Arnaud Demare derrière, et puis ils sont aidés également par les coéquipiers d'Alexander Christophe pour l'équipe UAE Emirates qui font le boulot, le train, quelques coureurs également de l'équipe Cofidis, et c'est vrai que ça a vraiment accéléré du côté du peloton qui s'est mis un peu plus en file indienne sur ces dernières minutes. Là, on est passé sous la barre de la minute désormais d'écart entre les échappés et le peloton à 40 km de l'arrivée bientôt.
Merci Pierre-Yves. 17h06 sur RMC. Fred, on accueille un nouvel invité dans notre studio camion.
Oui, on a parlé du néerlandais Tom Dumoulin avec son ancien équipier flamand Bert De Backer il y a quelques instants. Nous accueillons effectivement un journaliste britannique, anglais, il s'agit de Daniel Fribb. Bonjour Daniel.
Bonjour Fred.
Tu travailles chez ITV4, la chaîne qui est chargée de la retransmission en direct des étapes du Tour en Grande-Bretagne. Tu as longtemps travaillé pour la presse écrite. Il est en charge, Daniel, des interviews d'après-course, et c'est lui qui a la grosse responsabilité chez ITV d'aller à la pêche aux réactions de Froome et Jay. Christopher Froome et Geraint Thomas, les deux leaders de l'équipe Sky. Comment se passe ton tour, Daniel?
Ouais, assez bien. Depuis quelques années, on a pas mal de boulot, comme vous le savez, comme vous pouvez l'imaginer, avec Wiggins d'abord, et puis Froome, et ensuite Thomas. Et ouais, il y a toujours de l'engouement autour de l'équipe Sky. Il y a toujours des épisodes un peu curieux aussi, hein, comme celui d'hier avec Froome qui est tombé dans la descente, qui a heurté un gendarme. Mais ouais, on a toujours du boulot, toujours du stress, toujours des polémiques, donc ça se passe assez bien.
Ouais, et au bout du compte, il y a toujours la victoire aussi, ou quasiment, parce que ce sera dimanche la 6e fois en 7 ans qu'un Britannique remporte le Tour de France. C'est la domination, c'est la domination de la glorieuse Grande-Bretagne, hein, sur les routes,
ouais,
du Tour.
Ouais, c'est assez incroyable. Dans ces jours, je repense à ma première rencontre avec Geraint Thomas. C'était aussi ma première rencontre avec Mark Cavendish. C'était en 2005. On est était plusieurs journalistes qui étaient invités à une rencontre avec Jan Ullrich qui était en visite au Tour de Grande-Bretagne. Il ne participait pas, mais et puis à l'époque il y avait un accord entre T-Mobile, le sponsor de Jan Ullrich, et la presse écrite anglaise, mais ils nous ont présenté ces trois coureurs, jeunes coureurs anglais aux Britanniques. C'était Thomas, c'était Cavendish et Ed Clancy,
et Ed Clancy, spécialiste de la piste lui aussi évidemment.
Et on se disait que ces trois garçons, ils avaient sans doute du talent, mais ils n'allaient jamais passer professionnels, parce qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir des professionnels en Angleterre, en Grande-Bretagne. Et ouais, ça nous embêtait de devoir faire des interviews à des garçons de 18 ans, de 19 ans. Mais finalement, Cavendish, c'est presque le recordman des étapes au Tour. Et puis Thomas va en gagner, hein, ouais, peut-être.
Ouais. Thomas devrait remporter le Tour de France. Comment les Britanniques perçoivent Geraint Thomas? Est-ce qu'il est plus populaire, par exemple, que Chris Froome, qui est de nationalité britannique, mais qui n'a jamais été vraiment anglais, hein, considéré comme tel par les citoyens britanniques? Est-ce que Geraint Thomas, qui est gallois, par exemple, est plus populaire en Grande-Bretagne?
C'est un garçon qui n'est pas très connu en Angleterre, en Grande-Bretagne. Il a toujours travaillé à l'ombre de Wiggins, par exemple, de Froome. Il a toujours fait partie d'équipes de poursuite sur la piste. Donc, on connaît ses médailles d'or aux Jeux Olympiques, mais on connaît,
par équipe, oui.
Ouais, on connaît peu son caractère, qui est modeste, qui est affable, mais qui n'a pas de, il ne fait jamais d'étincelles. Donc, c'est quelqu'un qu'on va commencer à connaître le grand public dans les prochains jours, je crois.
C'est vrai qu'en Grande-Bretagne, il y a la particularité d'y avoir des nations différentes qui s'affrontent, par exemple, dans le tournoi des Six Nations. Est-ce qu'un Gallois, aujourd'hui, est considéré comme un Anglais, quelque part? Est-ce que les Anglais non. aiment bien les Gallois? Mais je sais qu'en rugby, c'est pas le cas, hein, par exemple.
Vous n'allez pas me demander d'expliquer la différence entre le Pays de Galles et le...
Non.
Enfin, c'est assez compliqué, mais ouais, de toute façon, il y a une identité nationale galloise qui est totalement différente de celle anglaise. Mais on le considère, dans le cyclisme, on parle presque toujours de britannique, de coureur britannique, donc
ouais, c'est
on ne fait
pas
trop de distinctions.
Bon, Geraint Thomas qui devrait remporter le Tour de France, Chris Froome, est-ce qu'il faut enterrer Chris Froome, Daniel, ou est-ce qu'il peut encore remporter de grands tours? Dans quel état d'esprit est-il, toi qui le rencontres quasiment au quotidien? Est-ce qu'il est abattu par cette situation, ou alors il fait bonne figure?
Moi, j'avais l'impression hier qu'il était quelque part soulagé de ne plus devoir affronter ces questions de qui est-ce qui est vraiment le leader de Team Sky. Il a déjà fait le Giro, il a 33 ans. Et puis sa femme, dans les prochains jours, va accoucher, donc il a peut-être la tête ailleurs. Moi, j'ai l'impression qu'il puisse toujours gagner un tour. Je pense pas deux, mais il a peut-être rejoint un petit plateau dans sa carrière. Il ne fait plus de grands exploits, mais
dans le Giro, il en a fait un beau quand
ouais,
même. Hein.
c'est la vérité. Mais depuis 2 ou 3 ans, on ne le voit pas lâcher les meilleurs en montagne, ouais, très régulièrement, mais il en fait assez.
Comment est-ce qu'on explique en Grande-Bretagne sa faculté à se lancer dans de tels raids comme celui réalisé sur le Giro? Il ne semble pas capable de reproduire ses exploits en montagne sur le Tour de France, mais est-ce que il y a un enthousiasme pour ce type d'épopée comme il s'y était adonné sur la 18e ou 19e étape? 18e, c'est ça. Ou est-ce qu'il y a des soupçons comme il y a pu y en avoir en France?
Ouais, il faut savoir que le Giro n'est pas très suivi en Angleterre, donc ça n'a pas fait beaucoup de bruit, sauf chez les amateurs de cyclisme. Mmh. Et puis, en ce qui concerne son exploit en soi, c'est pour nous tous, en français, anglais, c'est une journée de cyclisme qui est difficile à digérer ou à expliquer.
À décrypter, exactement.
Ouais, c'est tellement anormal. Dans l'histoire récente du vélo. Mais j'ai l'impression quand même que cet exploit-là n'a pas vraiment reçu la reconnaissance qu'elle aurait dû.
L'écho, effectivement, l'écho qu'il aurait pu.
Daniel, un mot sur les audiences. On sait que les Anglais, les Britanniques remportent le Tour de France régulièrement, donc depuis 7 ans, 6 ans, 6 victoires en 7 ans. Est-ce que les audiences, du coup, sont aussi belles qu'elles le sont pour la télé française, par exemple? Est-ce que les Britanniques sont devenus des fondus du Tour de France?
C'est peut-être des fondus du Tour de France, mais en tout cas pas du cyclisme en général. C'est un phénomène qu'à mon avis,
c'est limite. C'est pas encore dans la culture.
Non, c'est limite.
Britannique.
Ouais, il y a beaucoup d'écho avec la situation qu'on avait il y a 10 ans, 15 ans en Allemagne. J'espère que ça ne va pas avoir les suites, les conséquences qu'on a vu en Allemagne où d'un jour à l'autre tout l'engouement, tout l'intérêt est totalement effondré. Mais pour l'instant ça va très bien. J'ai peut-être la peur que les gens s'y habituent et pensent que
les Anglais gagneront toujours
chaque année pour les prochains pendant les prochains 20 ans, mais ce qui ne sera pas le cas. Mais pour l'instant, ça va très bien. On est allé de zéro à une popularité presque au niveau des pays scandinaves, par exemple.
Ouais. Et le vélo, le cyclisme en Grande-Bretagne est devenu un véritable phénomène culturel. Tout le monde roule en Grande-Bretagne. Tout le monde a un vélo, dans toutes les classes sociales. Ça, c'est assez impressionnant, d'ailleurs.
Oui, mais comme l'explique Daniel assez bien, il y a un engouement absolument incroyable en Angleterre.
Pour la pratique.
Pour la pratique, pour les champions aussi, il y a pas de doute là-dessus, mais peut-être qu'il y a un manque de culture assez évident, un manque d'expertise. Et quand tu parlais de cet exploit de la 18e étape sur le Giro made in Chris Froome, peut-être qu'effectivement le grand public anglais qui d'un seul coup est tombé fan de vélo comme on peut tomber fan de golf d'un seul coup, peut-être qu'ils n'ont pas conscience de l'héritage du Giro et de la portée presque historique des exploits de Christopher Froome ou des autres.
Très bien, merci beaucoup Daniel d'être venu dans notre micro. Bon travail sur ITV4. Donc si vous voulez regarder le Tour de France en Angleterre, c'est sur ITV4 que ça se passe. Merci beaucoup Daniel. 17h15. Fred, un tout petit point sur la course à une trentaine de kilomètres de l'arrivée désormais. Le top course.
Avec toujours 5 coureurs, 31 km à parcourir sur les routes des Pyrénées-Atlantiques en direction de Pau et une avance pour les 5 échappés qui a grandi. On essaye de stabiliser ça autour d'une minute en ce qui concerne le peloton. Ça roule très très vite à l'avant et au sein du peloton. 5 coureurs en route vers Pau pour faire de la résistance. Échappés depuis le premier kilomètre de cette 18e étape, le français Thomas Bouda, le belge Van Kersbulk, les deux australiens Heyman et Durbridge qui sont deux coéquipier de la même équipe donc, et le néerlandais Nicky Terpstra. 41 secondes dernier pointage à 30 km de l'arrivée.
Et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette Intégral Tour, la 18e étape qui s'achèvera à Pau, une ville qui connaît bien le Tour de France, 70e fois que le Tour fait escale dans cette ville des Pyrénées-Atlantiques.
RMC Intégral Tour.
C'est fou comme on prend vite de nouvelles bonnes habitudes avec Direct Energy.
Caro, j'ai fait mes calculs. En un an chez Direct Energy, avec 10% de réduction sur l'électricité et le gaz, on a économisé 123€. Je peux aller m'offrir le blouson, non ?
Trop tard, je me suis déjà acheté des baskets. Et oui, vous pouvez faire 10% d'économie sur votre électricité et votre gaz dès aujourd'hui et sans risque de coupure. Alors rejoignez Direct Energy, c'est rapide et sans engagement. Appelez le 3099 ou connectez-vous sur directenergy.com.
Service et appel gratuit. Voir conditions sur site, l'énergie est notre avenir, économisons-la.
Ça va se jouer au finish entre deux cyclistes.
Ah oui, Bazoge et Duvier vont franchir la ligne. Et le gagnant est... L'alerte discount. Il te file. Aujourd'hui, il y a 30% de remise immédiate sur les produits alimentation, chien et chat et les litières Netto. Oui, 30%.
Netto, le discounter qui fait la différence.
Modalité magasin participant sur netto.fr.
Écoutez l'effet d'un arrivage anniversaire trop fort, Brico Dépôt.
2€. 2€ le mètre carré?
Eh oui, la plaque de plâtre BA13NF 2,50 m par 1,20 m est au prix incroyable de 2€ le mètre carré. 2€ seulement le mètre carré pour ces plaques certifiées NF idéales pour rénover vos murs. Ça, c'est trop fort.
Ah oui, c'est fort. Mais vous n'en faites pas un peu trop?
Ben, c'est nos 25 ans quand même. Dès demain matin, 7h en quantité limitée. Soit 6€ la plaque. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots.
Ça y est, j'ai une connexion. Esprit, es-tu là?
On vous a jamais appris à vous voyer les esprits, vous?
Tonton Jean-Claude, c'est toi? Tu l'as caché où, ton trésor? Impossible de mettre la main sur cette fichue carte.
Il est enterré à... au fond de... Tu trouveras la clé de...
Zut, on l'a perdu.
Sinon, il y a Grandwheel. Avec Grandwheel, facilitez la vie de vos proches en leur indiquant où trouver vos différents trésors. Grandwheel, c'est la start-up française déjà leader européen sur la transmission post-mortem. Grandwheel.com, l'esprit connecté.
La bonne idée bute, c'est les crazy prix avec moins 30% sur une sélection de micro-ondes. Allez hop hop hop, on fait chauffer les promos là.
En ce moment, chez But, moins 30% sur le four micro-ondes signature, qui passe de 99,99 à 69,99 seulement. But, des prix et des idées tous les jours. Limité à 2060 pièces. Crazy prix, prix de folie.
En juillet chez Ford, une offre incroyable envahit les concessions. La Ford K+, la plus spacieuse des citadines, est à seulement 7 550€. Profitez-en, il n'y en aura pas pour tout le monde.
Pendant les Ford Days, la nouvelle Ford K+, avec 5 vraies places et limiteur de vitesse, est à seulement 7 550€. Les Ford Days, c'est chez Ford.
Prix maximum d'une nouvelle Ford K plus Essential 70 chevaux, incluant la prime à la conversion de 2000 euros sous condition de reprise d'un véhicule éligible. Offre valable jusqu'au 31 juillet, voire Ford.fr.
RMC.
Sur les routes du Tour, avec Linky, le nouveau compteur communicant d'Enedis.
RMC, Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Moins de 30 km de l'arrivée de cette 18e étape du Tour de France. 45 secondes d'écart. Écart qui se maintient pour l'instant, Fred, entre les 5 échappés qui sont partis dès le départ de cette étape et l'avant-garde du peloton. Avec un coureur français qui est un petit peu retardé à l'arrière du peloton. Attention, parce que c'est un coureur qui pourrait viser la victoire d'étape tout à l'heure.
Oui, c'est Christophe Laporte, le sprinter de la formation Cofidis, qui à 27 km de l'arrivée s'est arrêté sur la droite de la route alors que ça roule tambour battant à l'avant dans l'échappée et au sein du peloton. Il reste 27 km à parcourir. Christophe Laporte apparemment retardé par un papier, un déchet qui était coincé dans sa chaîne à la hauteur de son plateau. Toujours 45 secondes d'avance pour les 5 hommes de tête. Thomas Bouda, le coureur de l'équipe Direct Energy, les deux Australiens de la formation Mitchelton Scott, Matthew Heyman et Luke Durbridge, le grand Belge de l'équipe Wanty Group Gobert, Guillaume Van Carlsbulk et l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres, Niki Terpstra, qui à 26 km de l'arrivée est en train de sauter les relais. Il va encore mettre tout le monde en colère à l'avant de la course. Christophe Laporte est attendu à l'arrière du peloton par son équipier de la formation Cofidis, Nicolas Hédet. Devant son équipier, Anthony Pérez va essayer de faire le frein. Il roulait, Anthony Pérez, à l'avant du peloton pour favoriser les dessins de son sprinter Christophe Laporte. Maintenant, Laporte va essayer d'être ramené à l'arrière. A priori, pas de souci. Il a perdu une petite dizaine de secondes avec cet incident, Christophe
Laporte.
Et la route
Laporte est large en direction de Pau, là. Route sur laquelle on retrouve Pierre-Yves Leroux sur la moto RMC. Pierre-Yves, où te trouves-tu ?
Eh bien, on a été obligé de passer juste à côté des échappés parce que l'écart était vraiment réduit à 35 secondes pendant un petit moment. Donc là, ça laisse pas suffisamment d'écart entre les échappés et le peloton pour avoir des motos et des voitures. Donc tout le monde a été obligé de passer devant. Ça a été l'occasion de voir aussi, comme d'habitude, les échappés au plus près, à un mètre d'eux, de voir l'effort, la capacité de rouleur, de garçon comme Niki Terpstra qui était à l'avant de cette échappée. La machine Niki Terpstra sera vainqueur sur le Tour des Flandres, vainqueur sur Paris-Roubaix qui avait été vraiment impressionnant sur le dernier Tour des Flandres, qui avait été s'imposer de façon magistrale. Et c'est vrai que c'est pas forcément un garçon très aimé dans le peloton, son humour ne fait pas fureur, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en revanche son efficacité sur la route en font un équipier de premier choix, et aujourd'hui c'est lui qui est parti faire le boulot à l'avant.
Et le peloton qui a désormais quasiment en ligne de mire les cinq hommes échappés alors que l'on entame de très longues lignes droites.
Mais là, c'est le cas depuis le kilomètre zéro. Hein.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de lignes droites.
L'avance maximale de ce groupe de cinq échappés doit être aux alentours d'une minute 40. On a toujours vraiment tenu cette échappée en laisse, mais il reste 24 kilomètres maintenant à parcourir. Et c'est pas dit du tout que le peloton parvienne à rentrer sur une telle échappée composée avec ces coureurs-là. Le final de cette 18e étape s'annonce passionnant.
Eh bien, on va voir ça. Alors, on ne pouvait pas arriver à Pau sans accueillir dans notre camion studio la plus grande célébrité de Pau, le bon roi Henri IV qui est avec nous. Bonjour, Majesté. On va ouvrir le micro parce qu'à l'époque d'Henri IV, il n'y avait pas de micro, évidemment.
Voilà, c'est comme ça.
Voilà.
Mais je me fais aux nouvelles technologies.
Bonjour, Majesté. Comment allez-vous?
Très bien.
Bon, vous êtes content d'accueillir le Tour de France une nouvelle fois. Mais on est tous les ans chez vous quand même. C'est incroyable. Vous
filez
des pots de vin pour accueillir.
Moi, je ne file rien. Hein, je vous assure, je ne file rien. Mais par contre, je suis aussi chaque année chez vous. Et ça me fait plaisir. Depuis que je suis revenu de mon 16e siècle sur le Tour de France, je suis accueilli chez vous. Ça me fait plaisir, je vous remercie.
Voilà, Henri IV qui parcourt toutes les routes de son royaume durant ce Tour de France dans la caravane publicitaire pour vanter les mérites de la région.
Qui a gardé la tenue d'époque.
Oui. Ça doit être bien quand il fait 35 degrés votre truc.
Non, mais je dis parce qu'on me le demande tout le temps, toute la journée, on me demande si j'ai pas trop chaud, surtout qu'on a eu un Tour de France exceptionnel avec un temps merveilleux. Non, mais c'est une tenue qui est climatisée, donc il n'y a aucun problème, je ne souffre pas de la chaleur, je vous assure.
alors comment ça s'appelle?
La fraise autour du cou
par 35 degrés, ça
doit être une collerette plutôt.
Ah non, c'est une fraise.
C'est une fraise.
Non, il faut faire attention.
Je suis quasiment certain que tous nos auditeurs ne visualisent pas vraiment ce qu'est une fraise autour du cou.
Oui, on l'imagine rouge plutôt avec de la chantilly dessus, la fraise, ouais. Alors peau qui est véritablement une étape clé, enfin pas clé mais une étape indispensable au Tour de France. C'est la 70e fois que le Tour va s'arrêter dans votre ville, Majesté.
Oui, mais c'est normal, c'est une région tellement magnifique. Le Béarn, je ne fais que le vanter sur les routes du Tour de France. Et je dois vous dire que depuis, c'est la troisième année donc que je fais le Tour de France, et on acclame de plus en plus le Béarn. Le roi Henri IV, mais ma modestie me permet de penser que c'est plutôt le Béarn. Et c'est vrai, on me lance même des « Vive le roi !»
Surtout en Vendée, paraît-il.
Ah oui, en Vendée aussi, mais j'avoue que ici aussi quand même. Ouais. Et c'est vrai que ça me donne presque envie de proposer que la France redevienne royaliste. Non, je plaisante, c'est très bien comme ça, la République, j'aime bien ça aussi.
Bon, dites-moi, aujourd'hui c'est une étape en bois, alors qu'on arrive à Pau, il y a des montagnes incroyables, il y a un terrain de jeu fabuleux, et là on est sur des terres toutes plates.
Oui, Majesté. Mais vous avez vu ce que nos coureurs ont escaladé depuis deux jours dans les Pyrénées, c'est remarquable, on est passé par des paysages merveilleux.
Alors c'est merveilleux, c'est vrai que les paysages sont merveilleux, mais pour la course cycliste, moi je trouve que c'est un peu
aujourd'hui
triste, avec les montagnes, les cols qui sont derrière nous.
Oui, peut-être, mais écoutez, ça n'est pas moi qui fais le parcours.
Oui. Eh ben, je pense que vous devriez un peu influer auprès de la direction du Tour. Bon. Merci beaucoup, Majesté. On vous souhaite un bon retour à la maison ce soir.
Vous êtes
dans votre château avec toutes vos femmes et vos maîtresses. C'est incroyable.
Bien sûr. À Place Clémenceau ce soir, on fait une petite fête avec des troubadours, etc.
Oh là là.
Voilà. Enfin, c'est moi qui vous remercie de votre accueil.
Un peu de Jurançon quand même.
Forcément. Avec modération.
Évidemment. Une fois que l'étape est terminée.
Bien sûr.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
À très bientôt. La caravane du Béarn, évidemment, qui fait la joie de tous les spectateurs sur le bord des routes. 21 km 600 de l'arrivée. On va retrouver la moto RMC. Pierre-Yves, toujours en compagnie des hommes de tête qui n'ont plus que 28 secondes d'avance désormais.
Oui, même à peine, parce que il fait chaud sur la route, mais c'est vrai que là maintenant ce sont les échappés qui ont chaud. En fait, 25 secondes, l'écart est vraiment minime maintenant, le plus bas depuis le début de cette étape, et quand elle s'est créée, notamment à l'initiative de Van Beersbulk, j'y arrive plus, il fait trop chaud. Guillaume Van Beersbulk, je suis sûr que vous êtes plié de rire dans le studio.
Pourquoi tu dis ça?
Non,
Cyril Guimard,
il y a Niki Terpstra. Voilà. Niki Terpstra, Thomas Bouda également, et là ça va commencer à devenir vraiment difficile. Alors est-ce qu'un des garçons spécialistes des classiques va essayer de sortir pour tenter de la jouer seul? Ça risque d'être compliqué quand même, parce que là l'écart est vraiment tout petit. Maintenant on les aperçoit derrière nous et on voit le peloton qui n'est plus très loin. 30 secondes exactement.
Ça roule très très vite, hein. Ça roule très très vite en cette fin d'étape. C'est le cas d'ailleurs depuis le kilomètre zéro. Plus de 44 km heure de moyenne sur cette 18e étape. Et effectivement, un duel, ou plutôt un 5 contre 140 a priori. 5 échappés qui tentent de résister au retour du peloton à 20 km de l'arrivée. Effectivement, ça roule tambour battant depuis plusieurs dizaines de kilomètres maintenant. Une vraie belle course cycliste sur cette étape de transition.
22 secondes d'écart entre les 5 hommes de tête et la tête du groupe du peloton maillot jaune à 20 km de l'arrivée. On se retrouve dans un instant pour le final de cette étape.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
À peu près une demi-heure de l'arrivée, un peu moins d'une demi-heure de l'arrivée de cette 18e étape, puisqu'il reste un peu moins de 20 km à parcourir, et toujours nos 5 hommes de tête qui se sont élancés à l'assaut de la victoire d'étape dès les premiers kilomètres de l'étape, y arrivent, et qui sont actuellement dans une petite côtelette, la côte d'Anos.
Oui. Côte d'Alos, effectivement, une petite côtelette. Il reste un kilomètre à parcourir pour les hommes de tête. Ils n'ont plus que 20 secondes d'avance et ils appuient évidemment un peu plus maintenant sur les pédales, mais ils voient et ils sentent le souffle du peloton derrière eux. Ils se retournent de temps en temps. On sent aussi que l'entente va être un petit peu moins bonne. Ça serpentait il y a quelques instants dans cette échappée de la gauche vers la droite, juste avant la montée dans cette côte d'Alos où il y a du monde. On s'approche de Pau. Il y a moins de 20 km maintenant à parcourir pour aller s'attribuer une éventuelle victoire d'étape. Il n'y a plus beaucoup de chance sur ce Tour de France de l'emporter, de lever les bras. Alors, est-ce que ça sera pour les sprinteurs? Est-ce que ça sera pour cette échappée? Verdict maintenant dans quelques
kilomètres et très peu de temps très certainement pour cette échappée.
Ah oui, puisqu'ils n'ont plus que 16 secondes d'avance au compteur GPS. Effectivement, les hommes du peloton qui vont bientôt avoir en ligne de mire les 5 hommes de tête à moins de 19 kilomètres de l'arrivée. Un petit détour par le foot avec ce match du deuxième tour préliminaire de l'Europa League qui oppose les Lettons de Van Pils aux Girondins de Bordeaux. Christophe Péné.
Nous sommes dans le temps additionnel, Christophe, toujours 1-0 en faveur des Girondins de Bordeaux, un but inscrit sur coup franc dès la troisième minute par Zedou Youssouf. Mais derrière, les Bordelais sont tombés dans un faux rythme, ils se sont un petit peu endormis. Du coup, Benoît Costil a été obligé d'intervenir à deux ou trois reprises. Donc il faudra être sérieux jusqu'au bout. Et monsieur Lapovchkin, l'arbitre russe, siffle la mi-temps à l'instant même. 1-0 à la pause, donc en faveur des Girondins de Bordeaux face au Letton de Van Pils.
Merci Christophe, à tout à l'heure pour la deuxième mi-temps, 17h30 à 18 km de l'arrivée. Les choses sérieuses ont l'air de se décanter en tête de peloton avec une attaque dans la côte d'Anos, Fred.
Oui, c'est Simon Clark, l'Australien de l'équipe Education First, avec son maillot rose et blanc, son cuissard noir et vert, qui est en train d'accélérer dans la côte d'Anos à la chasse aux 5 hommes de tête. Van Kersbulk, Matthew Heyman, Luke Durbridge, Thomas Bouda et Niki Terpstra franchissent à l'instant cette côte d'Anos, dernière des deux difficultés du jour. Derrière, Simon Clark, l'Australien, est en train d'emmener un groupe d'une petite dizaine de coureurs.
Avec Dan Martin.
Dan Martin, effectivement, l'Irlandais de l'équipe Emirates. On aperçoit David Godu, me semble-t-il.
Ouais, Godu.
Je suis pas sûr, David Godu.
C'est Godu en quatrième position.
En tout cas, il y a beaucoup de coureurs de l'équipe Groupama FDJ. Pourquoi? Parce que les Groupama FDJ occupaient les toutes premières places du peloton pour chasser derrière l'échappée et favoriser une arrivée au sprint pour leur sprinter Arnaud Démare. Et bien là, ils sont en train de profiter de l'accélération de Simon Clark et de se lancer en contre-attaque derrière les 5 hommes de tête à 18 km de l'arrivée. Jonction à l'avant entre les 5 hommes de tête et ce groupe d'une petite dizaine d'unités où l'on trouve l'ancien champion d'Espagne Jesús Herrada, le néo-zélandais Jack Bauer, coureur de l'équipe Mitchelton Scott. Ça fait donc 3 coureurs de l'équipe Mitchelton Scott à l'avant dans ce groupe d'une petite quinzaine d'unités et 3 coureurs de l'équipe Groupama FDJ. On a David Godu, on a Arthur Vichot et peut-être Ramon Sinkeldahl.
Et Rudy Mollard.
Rudy Mollard, le français. 4 coureurs de l'équipe Groupama FDJ dans cette quinzaine d'unités. Devant, ce sont les Dimension Data. Les Dimension Data qui roulent pour, évidemment, non pas Mark Cavendish, mais probablement leur finisseur norvégien Edvald Boasenhagen.
Est-ce qu'il faut prendre ce groupe au sérieux, Cyril, à 17 km de l'arrivée?
Oui, parce que c'est une belle attaque qui d'un seul coup vient tout simplement de réveiller l'ensemble du peloton qui avait réglé son allure sur les hommes de tête donc pour revenir progressivement. Et là, on a une véritable attaque où on est monté de 2 octaves.
Mais les coureurs de l'équipe Groupama FDJ ne participent pas au relais et pour cause, ils ont derrière un garçon qui rêve de décrocher une victoire. Ce garçon, c'est Arnaud Démare, le sprinter maison Arnaud Démare. Fanny jusque là sur les routes du Tour de France qui hier
oui,
s'est accroché.
Ils auraient dû rouler.
Mais oui, parce que à 4 dans un groupe de tête, il y a peut-être plus de chances qu'au sprint tout à l'heure pour Arnaud Démare.
Ouais. Oui, non, mais en plus ils obligeaient les autres équipes de sprinters à rouler et eux ils étaient 4.
Oui, donc peut-être petite erreur stratégique, tactique.
Et d'autant qu'ils pouvaient arrêter s'échapper quand ils voulaient en étant 4.
Voilà, et ben cette échappée prend fin à l'instant même puisque les hommes qui s'étaient échappés, qui avaient rejoint les 5 hommes de tête, sont rattrapés maintenant. Fred.
Si ça ne gagne pas chez Groupama FDJ par l'intermédiaire d'Arnaud Démare, il faudra revenir sur cet événement, même si c'est toujours très simple de commenter les choses a posteriori. C'est un choix qui est totalement assumé chez Groupama FDJ, malgré le surnombre de cette formation tricolore dans ce groupe d'une quinzaine d'unités. Ce choix de ne pas rouler, effectivement, avec 4 Groupama FDJ dans cette échappée. Jonction et peloton groupé très très étiré à 16 km de l'arrivée. On se dirige vers Pau avec de grandes chances désormais de voir l'étape s'achever par un sprint massif.
On accueille David Opozinski, notre confrère du Parisien aujourd'hui en France. Salut David.
Salut à tous.
Alors ce matin dans ton journal, eh bien un grand papier sur Arnaud Démare, le sale air de la peur. Laquelle peur? La peur de ne pas arriver dans les délais, c'est ça?
Absolument.
Hier et avant-hier.
Ouais, hier, exactement. 2 jours, un combat avec lui-même, Arnaud Démare, pour réussir à survivre dans ce Tour de France et ce qu'il a réussi à faire. plutôt de belle manière, parce que c'était pas forcément évident au départ.
Arnaud, qu'on a entendu tout à l'heure, très remonté après cette affaire du Tweetgate, hein, le tweet de André Greipel qui mettait en cause bien sa montée finale dans le col du Portet, en laissant penser qu'il avait, c'était peut-être accroché à une voiture pour arriver à limiter les dégâts. Ça l'a touché, hein, on l'a senti très touché.
Ouais, remonté, mais surtout blessé. Voilà, très marqué. On a la chance de partager le même hôtel que lui, et on l'a vu dès ce matin, malgré le tweet d'excuses qui venait d'arriver d'André Greipel. Eh bien, Arnaud Démare reste très marqué, donc il va vivre cette journée avec ce poids-là, et il va tenter de se libérer tout à l'heure lors du sprint pour bien évidemment aller chercher la victoire, qui, comme il l'a dit, sera la meilleure réponse
à
faire.
La meilleure réponse et la meilleure solution à tous les maux d'Arnaud depuis le début de ce Tour de France. Il n'a pas été verni, il a souffert, mais il s'est accroché quand même, hein. Il faut le faire quand même quand on est largué à l'arrière du peloton comme ça deux jours consécutifs, de réussir à rentrer dans les délais et de s'accrocher à ce Tour de France. Il veut le terminer, ce Tour.
Oui, parce que beaucoup de sprinteurs ne sont plus là, et donc la perspective est évidemment de pouvoir sprinter sur les Champs-Élysées avec une grande chance de l'emporter, même si Peter Sagan sera là et d'autres. Mais c'est vrai que là, il a une vraie motivation. Surtout que l'année dernière, il avait réussi à terminer l'étape, même où il avait été malade et en difficulté. Malheureusement, il était arrivé hors délai. Mais voilà, Arnaud Démare n'abandonne pas aussi facilement, hein.
Cyril, est-ce que ça peut lui apporter un petit supplément d'âme, le fait d'avoir été blessé, vexé par le tweet d'André Greipel dans le sprint dans quelques kilomètres, dans 14 kilomètres maintenant?
Je trouve que c'est très bien. Moi, j'ai presque envie de remercier Greipel parce que effectivement, ça l'a mis en colère, ça l'a remué, ça l'a touché. Et on sait que ce genre d'événement, ça ne peut qu'être important dans sa motivation et dans sa volonté de démontrer. Peut-être que c'est ce qui lui manque finalement de temps en temps. Peut-être que on le pique un petit peu. À l'orgueil.
Mais c'est souvent un moyen utilisé d'ailleurs par les entraîneurs ou par les directeurs sportifs.
Je ne sais pas si ça se fait en cyclisme.
Mais en foot par exemple, lorsque un adversaire a dit du mal d'une équipe, s'est moqué d'une équipe, les entraîneurs ou les journalistes se sont moqués ou ont critiqué l'équipe.
98, la Coupe du Monde 98, Aimé Jacquet s'est servi
aussi,
des médias qui voulaient absolument le faire sauter pour arriver à souder son groupe contre les journalistes.
David. Mais là, c'est quand même un peu plus, enfin, c'est grave, là, parce que c'est une accusation de malhonnêteté, de triche.
C'est un collègue, en plus.
Voilà, c'est pas simplement le tempérament d'Arnaud Démare qui est mis en cause, hein. C'est vraiment, la façon dont il a pratiqué son métier hier. Donc, c'est pour ça que ça touche d'autant plus profondément, le coureur.
Bon, on va voir s'il réussit à claquer une victoire d'étape et à décrocher un bouquet sur les routes de ce Tour de France 2018. On rappelle, Fred, que l'an dernier, il avait décroché sa première victoire sur les routes du Tour.
Oui, c'était à Vittel, le sprinteur Arnaud Démare qui avait tiré les marrons du feu dans ce sprint dont tout le monde se souvient évidemment. C'est là que Peter Sagan, maillot de champion du monde sur les épaules, avait catapulté Mark Cavendish dans une balustrade. Les deux avaient quitté la course, l'un parce qu'il avait été bien blessé, c'est Mark Cavendish, et l'autre mis hors course par le jury des commissaires. Peter Sagan qui est toujours là,
oui,
évidemment, dans les 15 premières positions du peloton. Il est désormais très très bien entouré par quatre coureurs, quatre coéquipiers de la formation Bora. On est à 12 km 500 de l'arrivée. Ce sont toujours les groupes AMA FDJ d'Arnaud Démare qui roulent, avec notamment David Godu, le jeune grimpeur breton qui fait le boulot assez loin de l'arrivée parce qu'il ne sera pas capable de rivaliser avec les gros rouleurs. Lui qui fait moins de 60 kg, moins de 55 kg même, on le rappelle, David Godu qui a été flashé à 53 kg.
C'est ça exactement. Je ne sais pas si on peut dire flash à 53 kilos, et peut-être moins maintenant, après presque 3 semaines de tour.
C'est étonnant quand même. Il n'est pas grand, c'est vrai, David Godu. Il a peut-être les os assez légers. En tout cas, Rudy Mollard prend le relais de David Godu. Arthur Vichot est là également. On aperçoit Jacopo Guarnieri, l'Italien. Arnaud Démare est évidemment en dernière position de ce train tricolore Groupama FDJ qui assume totalement sa tactique aujourd'hui. On a vu également les Cofidis venir rouler à l'avant du peloton. Les équipes françaises jouent crânement leur chance aujourd'hui. Thomas Bouda est allé dans l'échappée du jour pour la formation Direct Énergie, et aujourd'hui on aperçoit Arnaud Démare qui fait rouler son train tricolore. On aperçoit Christophe Laporte qui rameute ses troupes avec son Belge Dimitri Claes et son Espagnol Herrada, et derrière Christophe le Norvégien et Sagan le Slovaque observent nos tricolores faire le boulot à l'avant.
On va retourner à la moto RMC avec Pierre-Yves Leroux à 11 km 500 de l'arrivée devant le peloton, donc plus d'échappés depuis un petit moment maintenant. Effectivement, ce sont les hommes de la formation Groupama FDJ qui font un gros boulot en tête de peloton, Pierre-Yves.
Et oui, le peloton qui va plonger bientôt vers Pau et qui termine la traversée de Morlas. Grande descente à venir pour les Groupama FDJ et le reste du peloton. Ils sont derrière nous. Ça va actuellement à 80 km/h dans cette descente avec le gros boulot effectivement de Godu, de Mollard, de Sinkeldam, de Jacopo Guarnieri qui sont les lanceurs de Arnaud Démare qu'on pourra voir à la manœuvre dans les derniers kilomètres à 3, 2 et 1 km. Ils feront le boulot pour l'abriter au mieux. Ensuite, ça sera aux sprinteurs de cette équipe Groupama FDJ de faire le dernier jump, le dernier boulot et d'avoir le double kick, la double accélération qu'il n'a pas forcément eu ces dernières, les dernières étapes, notamment lorsqu'il a été battu à Valence par Peter Sagan et Alexander Christophe. Donc on verra si aujourd'hui il a les capacités. Bientôt 10 km de l'arrivée pour le peloton et les hommes d'Arnaud Démare.
Merci Pierre-Yves. Pierre-Yves qui va rallier la ligne d'arrivée dans quelques instants et nous laisser donc vivre ce sprint massif qui se dessine à 10 km tout rond de l'arrivée de cette 18e étape. Merci David d'être venu dans notre studio. On te retrouve demain pour de nouvelles questions, de nouveaux débats. Dans quelques instants, le final de cette 18e étape, 10 km de l'arrivée.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
À 6 km de l'arrivée de cette 18e étape du Tour de France, après une longue échappée de 5 coureurs qui a pris fin il y a quelques minutes maintenant, peloton groupé, peloton qui roule à vive allure vers le centre-ville de Pau, où sera jugé dans quelques instants maintenant l'arrivée de cette 18e étape. On surveille évidemment Arnaud Démare, le sprinteur de la formation Groupama FDJ, qui était tout à l'heure encadré de ses équipiers en tête de peloton. Ils sont désormais, Fred, dans un deuxième rideau. Attention, attention, Peter Sagan est de retour aux avant-postes de ce peloton du Tour de France.
Oui, il a sonné la cavalerie, le champion du monde recouvert sain du maillot vert depuis de longues journées maintenant. Peter Sagan qui va effectivement, malgré sa chute hier dans la descente du col de Val-Louron-Azay, malgré sa chute, il va aller disputer le sprint. Il fait rouler le champion d'Autriche, son coéquipier chez Bora, Postelberger. On aperçoit Daniel Oss également, Matej Bodnar également, le grand copain de Peter Sagan au sein de cette formation. Bora est prêt à tirer de longs bouts droits. On est à 5 km de l'arrivée, très exactement. Les Bora qui préparent le terrain avec pour principaux adversaires, semble-t-il, aujourd'hui les Groupama FDJ de Arnaud Démare. On aperçoit également les maillots roses de la formation américaine Education First Drapac. Les Sky sont là pour protéger évidemment Geraint Thomas. On maintient Geraint Thomas dans les 20 premières positions du peloton, également aux avant-postes le maillot de champion d'Europe, le Norvégien Alexander Christophe, et puis probablement Sonny Colbrelli, l'Italien de la formation Bahrain Merida. On a là les favoris pour une éventuelle arrivée au sprint. Notez également la présence aux avant-postes aujourd'hui des maillots rouges et blancs de la formation nordiste Cofidis. Christophe Laporte a décidé de faire le sprint et faire rouler ses équipiers.
Alors Cyril, tu nous disais tout à l'heure qu'a priori on aurait peu de chance de voir Peter Sagan se mêler au sprint. A priori, il a plutôt bien récupéré de sa chute d'hier qu'il avait tout de même bien entamé, hein.
Oui, je disais surtout que le problème, il fallait qu'il ait bien récupéré de façon à ne pas aller prendre des risques qui pourraient remettre en cause, dans le cas d'une nouvelle chute, son arrivée à Paris avec un nouveau maillot vert. Donc apparemment, tout va bien, il se sent sûr de lui, donc il y va.
Il y va, même si ça passe parfois un peu ric-rac hein, lorsqu'on aborde les faubourgs d'une grande ville telle que Pau. Toujours oui, trois.
Si je vois ce que je vois, il va au contact.
Il va, frotter, ça l'a jamais dérangé. Hein.
Ça, pour frotter, il frotte Peter Sagan. Tout le monde au sein du peloton est au courant que celui-là ne laissera pas sa place. Si vous voulez venir frotter l'épaule, venez. À vos risques et périls, toutefois, ce sont toujours les coéquipiers du maillot vert qui roulent avec un coureur qui passe sur la gauche de la route. Côté trottoir, c'est Sonny Colbrelli ou Heinrich Hossler, peut-être l'Australien qui vient travailler pour le sprinter italien. Les favoris aujourd'hui pour cette arrivée à Pau, à 3 500 km de l'arrivée, Sagan, Démare, Colbrelli, Alexander Christophe, et puis pourquoi pas John Degenkolb. On a fait le tour parce que, on le rappelle, depuis le début de ce Tour de France, il y a quelques sprinteurs qui ont quitté la course, notamment dans les Alpes.
La formation Groupama FDJ qui est en train de remonter petit à petit son sprint. sprinter Arnaud démarre sur le côté droit de la route. Ils reviennent dans les premières positions qui sont toujours occupées par trois équipiers de Peter Sagan. Le maillot vert du Tour de France est un petit peu plus loin, mais Arnaud démarre est en train de remonter. Là, on a le cœur qui bat très vite, Jérôme, hein, quand on est équipier, quand on est sprinter à 3 km de l'arrivée.
Enfin, bien sûr, on sait qu'on doit pas se rater. Alors là, la Groupama FDJ, c'est plutôt pas mal. Ils restent derrière les Bora. Comme ça, ils vont pas être à l'ouvrage tout de suite. Ils vont pas devoir rouler trop tôt. Donc, alors, ils laissent faire le travail à Bora et ils restent en deuxième rideau en espérant qu'ils se fassent pas enfermer.
Il y a plus grand monde avec Arnaud Desmar.
Ils ne sont plus que deux, il n'y a plus qu'un seul équipier pour emmener Arnaud Demar et pour l'instant ça frotte avec Peter Sagan et Arnaud est en train tout simplement de reculer alors que nous allons arriver dans les deux derniers kilomètres. Il ne faut pas se laisser enfermer pour Arnaud Demar, mais Arnaud Demar n'a plus d'équipier pour le remonter.
Et il a perdu la roue effectivement de son équipier, il a tenté de prendre celle de Peter Sagan mais il est relégué 2-3 positions derrière le maillot vert. Fred.
On est à 2 km de l'arrivée, ce sont toujours les coéquipiers du maillot vert, Peter Sagan. Sagan qui va aller chasser une quatrième victoire d'étape sur ce Tour 2018. Le peloton en file indienne. Est-ce qu'un coureur va oser faire le coup du kilomètre? On aperçoit les Education First qui viennent se positionner à l'avant du peloton. Les maillots roses de la formation américaine. Est-ce qu'ils ont une idée derrière la tête avec pourquoi pas l'américain Taylor Finney pour faire le coup du dernier kilomètre? Un rouleur pour aller damer le pion au sprinter. Les Emirates d'Alexander Kristoff sont venus relayer les Bora à l'avant du peloton. C'est désormais le champion d'Europe Alexander Kristoff qui fait rouler l'un de ses équipiers à l'avant du peloton.
Et Arnaud Demar a retrouvé la roue de l'un de ses équipiers. Il est actuellement en 4e, 5e position derrière Alexander Kristoff qui roule dans la roue de ses équipiers. On remonte le long de la route sur le côté gauche pour les équipiers de Kristoff Laporte, le sprinter de la formation Cofidis. Ça frotte, ça joue des épaules sur le final de cette étape alors que le peloton aborde le dernier kilomètre, la flamme rouge du dernier kilomètre.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Dans les roues de Pau avec les aménagements urbains qui sont de véritables pièges pour les coureurs du peloton. Arnaud Demar, Kristoff Laporte, Peter Sagan, Kristoff, ils sont tous là pour la victoire d'étape dans moins de 800 mètres maintenant, Fred.
Avec le breton Julien Simon, coéquipier de Kristoff Laporte qui emmène de très très loin pour son sprinter Varois à 750 mètres de la ligne d'arrivée. Julien Simon va s'écarter, c'est un Trek Segafredo qui va travailler désormais en la personne de Jasper Stuyven, la machine flamande au service du sprinter allemand John Degenkolb. On est à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Il y a beaucoup de coureurs concernés par cette arrivée au sprint. Arnaud Demar est en quatrième position. 1, Stuyven. 2, Laporte. 3, Guarnieri. 4, Arnaud Demar. Derrière, on aperçoit Van Rensburg et Boasson-Hagen pour l'équipe Dimension Data. Alexander Kristoff en 7e position. Colbrelli en 8 et Peter Sagan en 9. Il faut se lancer le sprint désormais à 200 mètres de la ligne d'arrivée. C'est Arnaud Demar qui s'y colle. Arnaud Demar, le sprinter de l'équipe Groupama FDJ qui lance sur la droite de la route et qui va aller s'imposer. Victoire de l'ancien champion de France Arnaud Demar qui s'impose ici à Pau. Troisième victoire tricolore sur le Tour de France après les deux succès de Julien Alaphilippe. Arnaud Demar qui s'impose juste devant Kristoff Laporte. Deux Français aux deux premières places. Voilà sur cette 18e étape à 3 jours de l'arrivée sur les Champs-Elysées. Enfin Arnaud Demar, vilipendé hier sur Twitter par son ancien rival allemand André Greipel. Arnaud Demar qui a lancé exactement quand il fallait et qui vient récolter les fruits d'un énorme travail de ses coéquipiers de l'équipe Groupama FDJ tout au long de la journée aujourd'hui.
Un doublé français ici à Pau lors de cette 18e étape du Tour de France. Victoire de Arnaud Demar qui s'impose devant le sprinter de la formation Cofidis, Kristoff Laporte. Un sprint d'école mené par Demar et par ses équipiers, son équipier qui l'a emmené dans un fauteuil sur la ligne droite pour le dernier coup de rein d'Arnaud Demar, Cyril.
Oui, très bien, mais il faut faire attention parce que Arnaud, il a quand même traversé, il a fait une vague.
Une petite vague qui a gêné la porte. Ouais.
Et la porte est un petit peu gênée. Attendons quand même confirmation des commissaires.
Et susceptible, effectivement, Kristoff Laporte de poser réclamation via son équipe Cofidis. Effectivement, Kristoff Laporte qui s'est plaint au passage sur la ligne et qui a crié quelque chose à Arnaud Demar pendant que Demar levait les deux bras et célébrait sa victoire, sa deuxième victoire d'étape sur les routes du Tour de France un an après son succès à Vittel.
Jérôme, tu trouves qu'il y a une faute de Demar? Il y a une trop grosse vague qui freine quelque part Kristoff Laporte?
Ce qui est certain, c'est qui garde pas sa ligne. Après, est-ce que ça a gêné Christophe Laporte? Difficile à dire. En tout cas, lui a l'air de le penser parce qu'il fait un geste. Donc maintenant, on va laisser faire les commissaires. Mais est-ce qu'il aurait pu passer? On ne sait pas. Donc on verra la décision finale.
Bon, de toute façon, il y aura une victoire avec Damien Godu, David Godu, pas Damien, qui est au micro de Yann Pêchera, le coéquipier d'Arnaud Démare.
Exactement, David Godu qui est tombé dans les bras d'Arnaud Démare, qui à l'instant tombe dans les bras de Jacopo Guarnieri, l'un des poissons pilotes d'Arnaud Démare. Arnaud, il a été happé par les organisateurs, il parlera pas avant le protocole. Waouh, David, on a vu une joie incroyable, une joie immense pour Arnaud, pour toi, pour toute l'équipe, c'est un vrai soulagement.
Ouais, c'est sûr, gagner sur le tour, il y a très peu d'équipes qui arrivent à le faire sur 21 étapes. Aujourd'hui, c'était notre tour. Les premiers jours, on était très déçus que Arnaud gagne pas, lui aussi était très déçu, je pense, pas réussi à avoir gagné, il était tombé et tout, on a connu des galères. Voilà, maintenant Arnaud il a gagné aujourd'hui, c'est génial, je pense que toute l'équipe a fait le taf au maximum, que ça soit Tobias, moi, voilà, tout le monde a fait le taf. Et voilà, aujourd'hui il l'emporte, c'est juste génial quoi.
Ouais, on a vu Arnaud dans le final, mais on vous a vu effectivement toute la journée, toute l'équipe au travail. L'échappée n'a jamais eu sa chance. Ça doit faire du bien aussi d'avoir un plan au départ et puis que ça marche si bien à l'arrivée.
Ouais, c'est sûr, c'était pas gagné d'avance parce que voilà, les cinq qui étaient devant, c'était des clients quand même. Puis après, voilà, on a eu un petit coup de chaud quand c'est ressorti juste derrière, mais on a réussi à calmer le jeu et Arnaud a réussi à conclure en beauté.
On va vous laisser tranquille avec cette histoire d'équipe française qui gagne pas dans le tour.
Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, on a gagné, on fait taire les critiques, on va dire.
Merci beaucoup, David.
Voilà, David Godu, coéquipier d'Arnaud Démare, le petit grimpeur français qui avait réalisé une très belle étape hier en terminant deuxième français à l'arrivée de l'étape à Saint-Lary-Soulan au col du Porté à la 14e place. Il a fait son boulot d'équipier. Rudy Mollard, autre équipier d'Arnaud Démare avec Yann.
Exactement, avec Rudy Mollard. Toi aussi, on t'a vu tomber dans les bras de tout le monde. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de soulagement dans cette équipe Groupama FDJ avec cette victoire d'Arnaud.
Ah, bien sûr, c'est super. Je pense qu'aujourd'hui, on avait vraiment une force collective. On s'est vraiment mis tous ensemble pour aller chercher ce sprint et pour que Nono gagne. Donc, voilà, je suis vraiment fier de l'équipe aujourd'hui. Et il s'est accroché, il s'est battu comme un diable dans les Alpes, dans les Pyrénées, et aujourd'hui, voilà, il fait taire tout le monde.
Honnêtement, est-ce qu'il y a eu un petit peu de doute pendant ces deux premières semaines de tour?
Non, je pense qu'il était battu par plus fort. Ouais, je pense qu'il avait fait déjà deux places de trois. C'est le tour, il est meilleur sprinter du monde. Et là, il montre qu'il peut gagner après les Alpes et après les Pyrénées, donc super.
Merci.
Rudy Mollard, équipier d'Arnaud Démare, qui remporte donc cette étape. On va quand même rester prudent, Cyril, parce qu'il peut y avoir une décision des commissaires. Yann Pêcheral, toujours derrière la ligne avec un nouveau client.
Un nouveau client, un nouveau coéquipier d'Arnaud Démare, des poissons pilotes d'Arnaud Démare, Olivier Legac. Quelle joie, on vous voit tous vous tomber dans les bras, c'est fantastique pour l'équipe Groupama FDJ, c'est un soulagement.
Ouais, bah c'est sûr, c'est un soulagement. On venait là au tour pour ça. Arnaud était un peu en difficulté depuis le début du tour, mais on le savait en grande forme. Même si tous les jours en montagne, il est loin derrière, il gère bien son truc et on savait qu'il était très costaud. Donc voilà, la victoire aujourd'hui, après un super boulot de toute l'équipe, Tobias Ludvigsson qui a vraiment roulé à fond derrière, qui était impressionnant. Et voilà, la victoire à Arnaud, c'est vraiment super.
Ça a frotté dans le final. Il y a peut-être une réclamation. Toi, j'imagine que tu étais un peu loin, tu n'as peut-être pas vu.
Ah non, moi je me suis écarté vers 4-5 km, donc je n'étais pas là pour voir.
En tout cas, la Groupama FDJ a réussi son tour maintenant.
Ouais, voilà, une victoire. Après, il reste encore les champs, donc si on peut mettre la petite cerise sur le gâteau, ce serait super.
Merci beaucoup, Lyon.
Oui, l'appétit vient en mangeant, effectivement, pour Arnaud Démare, qui remporte donc cette 18e étape du Tour de France et qui devient le deuxième Français à remporter une étape sur les routes de ce Tour. Cyril, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la décision des commissaires dans quelques minutes ou franchement, il y a une petite vague, mais c'est pas très très sérieux non plus. Il y a pas de risque. Il n'envoie pas la porte au tapis ou
non, mais... Non mais il y a deux choses, c'est où on interprète le règlement ou bon normalement on n'a pas le droit de s'écarter de cette façon-là alors qu'on est le long des balustrades. Alors il le fait pas volontairement. D'autre part, la question qu'on peut se poser, regardez là, on voit le ralenti, il est bien le long des balustrades et il va venir quand même pratiquement au milieu de la route. Donc là, l'autre interprétation qu'on peut faire, les commissaires, est-ce que sans cette vague, la porte serait passée ou pas? Mm-hmm. Parce que la faute n'est pas volontaire. Il se désunit, il revient sur le milieu de la route. Mais si on prend le règlement strict, il peut y avoir effectivement une sanction.
Ouais, bah à ce moment-là, on déclasse quasiment tous les sprinteurs qui remportent des victoires.
Christophe, c'est pas comme ça qu'on analyse les choses quand on est commissaire.
D'accord. Bon, je veux pas être commissaire dans ma future vie. Fred, est-ce que la porte sans cette vague aurait pu passer devant Arnaud Démare?
A priori, non.
Je suis d'accord. A priori, il passait pas.
Il était lancé, Arnaud Démare. Il était lancé tel un missile sur la droite de la route. Effectivement, il a enfin réalisé ce qu'il espérait depuis le départ du Tour, Arnaud Démare.
On l'écoute, Arnaud Démare, première réaction.
Pour un instant comme ça, ça vaut le coup, non?
Ouais, ça vaut le coup, voilà, c'est ce que je pensais dans les moments difficiles, voilà, j'y croyais toujours. Les jambes sont bonnes, c'est juste que, voilà, je suis pas le meilleur en montagne, ça c'est pas nouveau, mais voilà, j'ai rien lâché. J'ai toujours cru en mes possibilités de victoire sur les peu de sprints qui restaient, Pau, les champs. Aujourd'hui c'est chose faite, l'équipe elle croit en moi, mes proches ils croient en moi, ma femme croit en moi. J'ai été énormément supporté en montagne, c'était beau à voir et aujourd'hui voilà, je leur dédie à tous.
Alors, racontez-nous un peu ce final face à Christophe Laporte, face à Alexander Christophe.
Ouais bah c'était un final très rapide, voilà, avec la descente à 10 km de l'arrivée. On s'est perdu un petit peu, je me suis jamais affolé, je savais que physiquement ça allait le faire et voilà, j'y ai cru fort. On était idéalement positionné avec Jacopo Guarnieri, toute l'équipe a fait un excellent travail en amont, donc c'était un sprint parfait.
Votre Tour de France est réussi et pourtant il reste encore une étape, les Champs-Elysées.
Oui voilà, mon Tour de France est réussi, je venais pour ça, j'ai travaillé pour ça, pour une victoire d'étape et voilà, tous ceux qui ont suivi ma préparation savent tout le mal qu'on se donne pour un moment comme ça, donc c'est super.
Bravo. Merci.
Arnaud Démare, grand sourire, le sprinter de la formation Groupama FDJ qui remporte donc la 18e étape de ce Tour de France et qui fait aussi bien que l'an dernier, Fred, où il s'était déjà imposé avant d'abandonner le Tour de France, alors que là, a priori, il devrait pouvoir aller au bout et pourquoi pas tenter de remporter une deuxième victoire dans 3 jours désormais sur les Champs-Elysées, parce qu'il reste assez peu de sprinteurs et cette victoire va lui donner des ailes, de la grosse confiance.
Oui, c'est sûr, Arnaud Démare, 26 ans, qui remporte sa deuxième victoire d'étape en 2 ans après son succès l'an passé à Vittel. Cette fois, c'est à Pau, au pied des Pyrénées. Il a bien eu raison d'en profiter parce que demain, la route s'élève encore.
Christophe Laporte, le deuxième de l'étape, est avec Yann Pécheral.
Oui, Christophe, on est en direct sur RMC. Christophe, grosse déception pour toi.
Oui, déçu. Je fais deuxième. C'est pas mal, mais on a toujours envie de gagner quand on est si près de la victoire. Attendez 2 secondes.
Christophe Laporte qui est en train de parler avec son directeur sportif. On a déjà un petit peu écouté ce qu'il était en train de raconter tout à l'heure à ses coéquipiers. Il ne sait pas trop si le sprint est réglementaire ou pas. On va lui poser la question. Christophe, on reprend. Une grosse déception pour toi.
Oui, une grosse déception. Dès que je reprends la route des marches, je reprends la vitesse. Je garde un peu l'aspiration et je commence à dépasser sur la gauche de la route. Et voilà, après, c'est pas. Voilà, c'est sûr. Deuxième, c'est pas mal, mais quand on est si près de la victoire, on a envie de l'emporter. Voilà.
Tu nous disais que tu voulais revoir les images avant de bien nous expliquer ce qui s'était passé. Est-ce que tu vas porter réclamation ou pas?
C'est pas à moi de juger, ça. Je vous dis, moi je pédale, je fais mon sprint. Il y a des gens qui regardent les images, donc c'est à eux de juger.
Tu as eu le sentiment d'être gêné?
Je viens de répondre à la question, on va pas la détourner.
Merci Christophe.
Voilà, Christophe Laporte forcément déçu évidemment, il est passé tout près d'une victoire d'étape ici, il a un peu l'impression de ne pas avoir pu livrer son sprint à fond. Est-ce qu'il a été gêné, est-ce qu'il a été freiné, Cyril?
Il a été gêné, c'est sûr, pardon Cyril, il a été gêné. Pour autant, est-ce qu'il allait sauter Arnaud sur la ligne?
Je suis pas certain.
Tu étais l'un des meilleurs sprinteurs de ton temps, de ton époque, de ce que tu en vois.
Je suis pas sûr que s'il n'y a pas la vague, puisque la porte est engagée au moment où Arnaud fait la vague sur la gauche. Je suis vraiment pas certain qu'il puisse passer.
En tout cas, c'est beau de voir deux sprinteurs français se battre pour la gagne. Ils font 1 et 2 et c'est aussi bien qu'il y ait une bataille de coqs ici à Pau plutôt que des déceptions, des larmes de déception à l'arrière de ce peloton et à l'arrière hier des meilleurs sprinteurs du monde.
Voilà,
ils sont devant.
Doublé français ici à l'arrivée à Pau. Grand sourire pour Arnaud Démare qui s'impose devant Christophe Laporte. Alexander Christophe termine troisième. Edvald Boasson a gagné. Il n'était pas loin ton favori aujourd'hui, Fred, puisqu'il est quatrième. Sonny Colbrelli cinquième. Et puis un petit peu plus loin, Peter Sagan qui n'a pas livré ses chances à fond. Sans doute ressentait-il des douleurs et de sa chute d'hier. Voilà donc victoire d'Arnaud Démare. C'est la troisième victoire d'étape pour un Français depuis le départ de ce tour. Cette fois-ci, le bilan est pas du tout mauvais pour les Français. Un autre Arnaud remplace Arnaud Démare. C'est Arnaud Souk qui va prendre le relais, Arnaud.
C'est vrai que j'ai pris des nouvelles ce matin d'Arnaud Démare et il était très très vexé toutes les critiques qu'il a subies. Ça m'étonne pas du tout qu'il ait remporté cette étape. Il avait à cœur forcément de briller. Donc victoire française, troisième victoire française en tout cas. Victoire d'étape sur ce Tour de France. On débriefe tout ça avec Siri Guimard, le druide de la Dream Team, dans un instant avec vous au 32-16 sur Direct Studio et sur le hashtag RMC Live. Un œil également sur nos matchs de football avec Bordeaux qui mène toujours 1-0 face à Ventspils. C'est le deuxième tour aller préliminaire de l'Europa League. Et puis Italie-France, ça c'est les U19 qui jouent en demi-finale de l'Euro. Tout ça, c'est dans un instant sur RMC, 18h04.